Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu la dernière fois, dimanche dernier, que le libéral n'avait pas l'amour de la vérité. Et je vais aujourd'hui vous montrer pourquoi l'amour de la vérité est important, pourquoi ce n'est pas qu'une simple question de mots, pourquoi cela va jusqu'à l'amour des principes. Pour bien comprendre ce qu'est la vérité, il faut remonter jusqu'à la sagesse divine. Quand on parle de la vérité aujourd'hui, on n'est pas toujours bien compris et les gens ne voient pas pourquoi nous y attachons tant d'importance. Si on disait que la vérité n'est que l'expression de la sagesse de Dieu, j'espère que beaucoup de nos contemporains comprendraient. Prenons un exemple de vérité, la famille par exemple. Dieu a voulu la famille d'une certaine manière, avec le père, la mère, les enfants. Il n'a pas voulu quatre parents, il en a voulu deux, il a voulu que les parents fussent mariés, et cela définitivement. Bref, la famille est conforme à la sagesse de Dieu. Si on veut inventer un autre modèle de famille, comme on prétend le faire aujourd'hui, ce modèle de famille ne sera pas conforme à la sagesse de Dieu. Ça sera une invention, et par conséquent, cette famille sera fausse. La famille conforme à la sagesse de Dieu est une vraie famille. La famille qui n'est pas conforme à cette sagesse est une fausse famille. Et on peut en dire autant de toutes choses. Par exemple, de la nature humaine. Dieu a fait l'homme avec un certain nombre de qualités, de facultés, une capacité à le connaître, à l'aimer, à le comprendre. Il l'a mis dans des circonstances de vie. Si nous ne respectons pas cela, si nous prétendons faire un homme qui ne soit pas cela, ce sera un faux homme, ce ne sera pas un homme. Vous allez me dire, mais il est permis à l'homme d'inventer des choses nouvelles, évidemment pas des hommes nouveaux. Il lui est permis d'inventer par exemple des nouvelles variétés de fleurs. Oui, bien sûr, nous en parlerons à la fin, mais toujours en référence à la sagesse divine, pour correspondre à cette sagesse. On peut dire que le monde est tout entier baigné et plongé dans la sagesse de Dieu. Dieu a tout fait avec ordre, poids et mesure, dit l'Écriture sainte. Comment cette sagesse est-elle connue par nous? Parce que Dieu a mis un rayonnement de sa sagesse dans toutes les choses. C'est-à-dire que une famille, ce n'est pas seulement une institution conforme à la sagesse de Dieu, mais dans la famille, il y a un certain rayonnement. Quand on voit une vraie famille, on ne peut pas s'empêcher d'admirer. Quand on voit une fausse famille, on ne peut pas s'empêcher de constater que le rayonnement manque. Quand vous voyez un artiste qui fait une statue, il met deux rayonnements dans la statue. Il met tout d'abord une sorte de rayonnement qu'on saisit par les yeux, une lumière. La statue est belle, elle est proportionnée. Vous direz que cette statue est la statue d'une belle femme, par exemple. Mais il y a plus que cela. Derrière ou au-delà de ce rayonnement saisi par les yeux, il y a quelque chose de l'artiste, quelque chose de pensé, qui rayonne également. Et vous voyez la statue, une statue de la Sainte Vierge, vous ne dites pas seulement « voilà une belle femme », vous dites « voici une femme maternelle, une femme bonne, une femme miséricordieuse ». Et nous qui avons la foi, nous savons que c'est la statue de la Sainte Vierge, et par conséquent, cela va nous aider à mieux penser à la Sainte Vierge. Je vous disais que toute chose sont faites par Dieu selon sa sagesse, et par conséquent, toute chose rayonne la sagesse de Dieu. Une abeille, par exemple, qui fait du si bon miel, va rayonner la bonté de Dieu. Mais l'organisation de la ruche, d'une façon tout à fait extraordinaire, et puis avec des variétés d'abeilles qui ont toutes des organisations particulières, cela nous révèle la sagesse de Dieu, justement. Si vous lisez les souvenirs entomologiques de Fabre, on est émerveillé de constater cette sagesse de Dieu, cette bonté de Dieu dans tout l'univers, quand il nous décrit, par exemple, comment la guêpe nourrit la larve. Et ainsi, notre intelligence, qui est une faculté non organique, non corporelle, contrairement à l'œil, qui est corporel, l'intelligence n'est pas dans le cerveau. Hein. Le cerveau est l'organe des sens qui apportent l'information à l'intelligence. Notre intelligence va avoir une double fonction, dégager de la matière ce rayonnement de la sagesse de Dieu, et puis faire sien ce rayonnement. C'est-à-dire que notre intelligence, à force de contempler, et c'est pour ça que l'expérience est très importante chez les enfants, c'est pour ça que c'est un drame, l'audiovisuel chez les enfants. L'audiovisuel est déjà peu recommandé aux adultes, mais alors aux enfants, pas du tout, parce qu'ils n'ont pas l'expérience des choses concrètes, et par conséquent, leur intelligence ne peut pas travailler comme elle devrait. Quand vous voyez la vie des abeilles à la télévision, par exemple, cette vie est en accéléré, ces abeilles ne sont pas dangereuses, elles ne piquent pas, et puis elles ne sont pas effarouchées si vous vous approchez de l'écran, et par conséquent, ça fausse la compréhension des choses par l'enfant. Et on arrivera à voir après cela, quand ils grandissent, des enfants qui n'ont pas d'humilité devant les choses, qui n'ont pas de prudence, qui n'ont pas, et ça va plus loin que la méconnaissance des choses matérielles, corporelles, ça va jusqu'à une fausse conception de l'homme, de la place de l'homme dans la création, et par conséquent, cela fausse même toute la vie spirituelle. Il est évident que les facilités modernes rendent l'homme orgueilleux, et plus particulièrement les enfants. Et nous, les adultes, qui savons maîtriser ces choses-là parce que nous avons eu une éducation qui n'était pas celle-ci, alors nous ne nous rendons pas compte, mais cela fait des dégâts chez les enfants. Je vous disais donc que l'intelligence dégage, on dit abstraire, c'est-à-dire qu'elle tire de, abstraire. Elle dégage le rayonnement mis par l'artiste ou par l'artiste divin dans les choses, et elle le fait sien, ce rayonnement. Et quand elle doit l'exprimer, elle l'exprime par la parole. On dit un concept également. Un concept, c'est plus précis. Mais soyons simples, disons la parole. C'est très important, cela. Parce qu'on voudrait nous faire croire que les mots ne correspondent à rien. Et cela, ce n'est pas vrai. Il y a une parole intérieure qui exprime la réalité des choses. Il y a une parole intérieure qui exprime, l'homme, la femme, l'enfant, l'abeille, puis la bonté, la vérité, etc. Et que l'être humain se dise « homme » en français ou « homo » en latin, cela ne change pas la réalité, à savoir que dans les deux cas, cela désigne un homme, et que tout le monde sait très bien ce qu'est un homme. Cela nous met nécessairement dans l'humilité, vous disais-je. C'est-à-dire que si l'homme est un homme, et que je désigne par le mot « homme » quelque chose qui n'est pas un homme, eh bien je triche. Pourquoi vous fais-je cet exposé sur la vérité, d'abord dans un sermon, parce que c'est une question justement qui est liée à la vertu, Deuxièmement, dans cette série de sermons sur la lutte entre les deux cités, la cité du diable et la cité de Dieu, parce que les mots ramènent à la vérité, donc à la sagesse, donc à l'humilité, et les révoltés veulent démolir le sens des mots, démolir le sens de la parole, parce que du coup ils démolissent notre dépendance. Si le mot « homme » ne signifie pas un homme, et si un homme peut être n'importe quoi, alors à ce moment-là, on peut faire de l'homme tout ce qu'on veut, et on n'est plus dans la sagesse de Dieu. C'est comme ça qu'on arrive à des horreurs aujourd'hui. Cette révolte est très ancienne, elle naît de l'orgueil, elle a été suggérée aux hommes par l'orgueil du démon et de ses complices. Heureusement, saint Thomas d'Aquin a été suscité par Dieu pour nous donner les explications que je vous transmets. Il les donne un petit peu plus détaillées, mais je vous fais un résumé qui est parfaitement fidèle. En défendant la notion de vérité, saint Thomas d'Aquin a sauvé la vérité de la foi. Tandis que ceux qui disent qu'il n'y a pas de vérité, comment voulez-vous qu'il y ait une foi ? Vous voyez, la parole, ou le concept qui précède la parole, mais c'est presque la même chose, n'est pas une création de l'homme, c'est l'expression de la vérité. Ce qui est une création de l'homme, c'est qu'on écrive homo, H-O-M-O. Bon, très bien, ça c'est une création de l'homme. Encore que cela repose sur des vérités à la base. Mais ce que désigne le terme homo ou le terme homme, cela n'est pas une création de l'homme, ce n'est pas nous qui le créons. C'est l'expression de la vérité, c'est-à-dire l'expression de la sagesse divine que nous avons saisie. Et notre intelligence est tellement puissante qu'elle peut faire des rapprochements entre les choses, par exemple la notion d'homme, la notion d'animal, et elle en conclut que l'homme domine l'animal. Ou bien la notion d'homme adulte et d'enfant, et alors on en tire des conséquences. Ça, c'est le raisonnement. Le raisonnement qui se fait à partir de constatations vraies, et nous découvrons par notre intelligence le rapport que Dieu a mis entre les choses. Je vous disais, Dieu a tout fait avec ordre, poids et mesure. Eh bien, cet ordre, ce rapport entre les choses, parce qu'en Dieu, tout est un, mais il a mis un rapport entre les choses. Et ce rapport, nous le découvrons, et c'est très important parce que nous entrons par là dans des réalités qui sont de plus en plus spirituelles. Le processus de la connaissance est un processus d'abstraction de la matière pour entrer dans l'esprit. Et plus l'intelligence avance, plus elle entre dans l'esprit de Dieu, donc plus elle entre dans la sagesse de Dieu, et plus elle est spirituelle. Plus elle saisit les choses spirituelles, et donc plus elle se spiritualise elle-même. L'erreur est donc une maladie de l'intelligence. Cette erreur peut être involontaire ou volontaire. Si elle est volontaire, alors on appelle cela le mensonge ou l'hypocrisie, qui peut aller fort loin. Il n'y a pas simplement sur le mensonge sur des choses concrètes. Il y a justement le mensonge sur la connaissance de cette réalité. Le monde moderne nous baigne dans le mensonge, voudrait nous baigner dans le mensonge en disant que nous ne pouvons pas connaître Dieu, que nous ne pouvons pas connaître l'homme, qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de sagesse, etc., etc. Ça, c'est un mensonge volontaire. Et puis, il y a les erreurs involontaires. Mais l'erreur est objective, c'est-à-dire que tout homme qui connaît la vérité est capable de discerner l'erreur de la vérité. Si quelqu'un vous dit qu'une famille, ce n'est pas un père, une mère et des enfants, quiconque a saisi la sagesse de Dieu est capable de dire « Non, monsieur, ce que vous me dites est faux ». Nous sommes donc tous dépositaires de cette sagesse de Dieu que nous avons saisie, et c'est ce qui fait que nous pouvons répondre à des supérieurs qui voudraient nous entraîner dans l'erreur. Lorsque Mgr Lefebvre dit qu'un enfant de 4 ans est capable de dire, 4 ans peut-être pas encore, qu'à 4 ans on fait sa première communion, Un enfant de 4 ans qui a fait sa première communion est capable de dire à un évêque « Monseigneur, si vous enseignez que Jésus n'est pas dans l'hostie, vous vous trompez, c'est la vérité. » Et vous avez eu des enfants qui furent martyrs parce qu'ils connaissaient la vérité et qu'ils ont refusé de céder aux persécuteurs et ils sont allés jusqu'à la mort. On va dire que dans la crise actuelle, il n'y a plus d'autorité. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'autorité n'est plus exercée, mais elle existe et vous avez déjà au moins, je vous ferai une autre fois un serment sur l'autorité, mais vous avez au moins l'autorité de la vérité. Et cette autorité, tous les hommes sages ont pénétré en elle et par conséquent la possèdent et par conséquent peuvent l'exercer. Ce que je vous enseigne tout de suite, je ne suis pas évêque, puis je ne suis pas votre curé, je n'ai pas été nommé pour m'occuper de vous. Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Parce que je vous dis la vérité, je vous transmets une lumière qui rayonne, je ne fais que transmettre, hein. Une lumière qui rayonne, cette lumière, vous la saisissez comme une lumière, et vous pouvez dire après cela, comme les Samaritains à la Samaritaine que Jésus avait rencontrée, « Nous n'avons plus besoin de ton témoignage, maintenant nous l'avons entendu lui, et nous savons qu'il a raison. » Troisième partie de ce sermon, il faut appliquer la vérité à nos actions. Dès que l'homme doit poser une action, il doit le faire dans la sagesse divine, parce que l'action, c'est quelque chose. Si l'action, ce n'était rien, ça ne serait pas la peine d'agir. Si nous agissons, c'est qu'il y a quelque chose. Une action, c'est justement ce qui va nous mettre, nous, ou ce qui va mettre les autres, à leur place dans le plan divin. Par exemple, inscrire un enfant dans telle ou telle école, c'est le mettre à sa place dans le plan divin. Lui faire étudier telle ou telle matière en fonction des capacités que Dieu lui a données et que le père de famille avec son intelligence a perçues, que Dieu avait préparé ce petit enfant pour en faire un bon père de famille, pour en faire un bon avocat, pour en faire un bon médecin, que sais-je. Le père de famille, lorsqu'il agit, la mère de famille de même, lorsqu'elle agit, lorsqu'elle demande à son enfant d'être un homme, de se dominer, par exemple, de ne pas pleurer, elle met son enfant dans le plan divin. Et par conséquent, pour le mettre dans le plan divin, il faut qu'elle fasse, et que le père de famille également, fasse référence à la sagesse divine. Et par conséquent, on doit rechercher cette sagesse. Je vous ai pris l'exemple de la famille. Alors, puisque la famille est ce que nous savons dans le plan de Dieu, il est évident qu'un jeune qui cherche une épouse doit chercher une épouse selon ce plan de Dieu, et cela prohibe de se marier à toute révoltée, à toute pimbèche, à toute féministe, et qui sont des personnes qui ne veulent pas entrer dans le plan de Dieu. Ce devrait être évident. Et pourquoi a-t-on tant de drames aujourd'hui dans les familles et des mariages peu solides? Parce qu'on n'a pas mis cela à la base. Alors on a mis le sentiment à la base, on a mis l'accord des caractères, on a mis tout ce qu'on veut à la base, des choses qui nous plaisent. Mais si on n'a pas cherché à entrer dans le plan de Dieu, nécessairement, toute famille sera fragile. Par conséquent, on voit que cette sagesse de Dieu, donc la vérité, est un principe d'action. L'action doit sortir du principe. Et alors voilà, maintenant, le mot qui est lâché, le gros mot qui déplaît tant, les principes. On ne va pas se battre pour des principes, par exemple. C'est exactement le contraire. On peut très bien ne pas se battre pour des choses secondaires, mais sur des principes, on ne peut pas céder. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on ne peut pas accepter d'aller avec lui. En toute chose, il faut remonter au principe, parce que remonter au principe, c'est remonter dans la sagesse de Dieu à l'unité de la sagesse de Dieu. Dieu a fait des choses diverses, mais toutes ces choses diverses se réunissent dans des principes qui sont de plus en plus simples, et puis finalement, on arrive au principe des principes, c'est-à-dire la bonté de Dieu qui crée et l'être de Dieu qui est éternel. Et je voudrais vous faire remarquer que seuls les hommes de principe peuvent être souples, tandis que les hommes qui n'ont pas de principe ne peuvent être que durs. ou les hommes qui ont des principes comme les libéraux, mais qui ne les appliquent pas. Pourquoi l'homme de principe peut être souple? Parce qu'il va saisir la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il va saisir le temps que Dieu prend pour amener les gens à la vérité, à la vertu, etc. Et par conséquent, il va s'adapter à cette lenteur de Dieu, si je puis dire, dans l'action. Et voilà pourquoi il sera miséricordieux, patient, compréhensif. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de principe, au contraire, sa patience a pour but de ramener au principe. L'éducation d'un enfant qui dure des années, des années, des années, elle est guidée par les principes. Bien sûr, on est patient, on ne donne pas tout d'un coup, on corrige mais sans casser, on oriente, on enthousiasme, surtout on enthousiasme. Donc ce sont bien les principes qui dirigent, mais en même temps, ces principes permettent d'être souple. Celui qui n'a pas de principe, il n'a pas de repère. S'il n'a pas de repère, eh bien, dès que les choses ne vont pas comme il le voudrait, il devient dur. Dans une tempête de neige, si vous avez perdu la porte de l'igloo, vous plantez un grand bâton aussi visible que possible, puis vous tournez autour en vous éloignant progressivement. Vous finissez par trouver la porte de l'igloo. Pourquoi ? Parce que vous avez un repère. Mais celui qui n'a pas de bâton, qui n'a pas de repère, qui va dans tous les sens, il passera à côté de la porte de l'igloo, et puis il se perdra, et puis il mourra dans la tempête de neige. Mais ça, c'est la définition du libéral. Le libéral est un homme dur parce qu'il n'a pas de principes, ou plutôt, il est d'autant plus dur qu'ayant des principes, il refuse de les appliquer, et cela l'oblige à être encore plus dur. Quels sont les grands principes ? Le premier de tous, c'est que nous sommes dans la dépendance de Dieu. Dieu est l'être indépendant parce qu'il est tellement parfait qu'il ne dépend de rien. Et nous sommes dans la dépendance de Dieu, toute perfection ne vient que de lui. Cela, c'est le grand principe de la spiritualité de Mgr Lefebvre. Tout repose là-dessus. Le deuxième principe, c'est que la sagesse éternelle s'est incarnée en Jésus-Christ. Et ça, c'est un grand principe. Et cela condamne tout naturalisme, toute politique naturaliste, qui est si fréquente aujourd'hui. Je pense que je vous ferai un serment sur le naturalisme. Et cela condamne tout espoir de restaurer quoi que ce soit en dehors de la sagesse de Dieu. Que Dieu vous fasse la grâce de voir en quoi, dans les difficultés présentes, c'est toujours lui qui est visé par la révolution, et que par conséquent, Dieu vous fasse la grâce de toujours lui être fidèle malgré les persécutions. Troisième principe, cette sagesse en Jésus-Christ nous est communiquée par la croix. Le grand acte de la sagesse de Dieu, et même de l'amour de Dieu d'ailleurs, c'est la croix. Pourquoi ? Parce que la croix nous tire de notre folie pour nous faire entrer dans la sagesse, et une fois que nous sommes définitivement entrés dans la sagesse, nous n'avons plus besoin de la croix. Au ciel, il n'y a plus de croix. Quatrième principe, le monde est blessé par le péché et il est contraire à la sagesse de Dieu. Ça aussi, c'est important. Je vous ferai un serment sur le monde, je pense, comment on sanctifie le monde. Il y a la chrétienté qui cherche Dieu. Alors ça n'est pas le monde blessé, enfin c'est un monde blessé mais restauré. Mais le monde blessé par le péché, c'est un monde ennemi de Dieu. On ne peut pas tergiverser là-dessus. Et avec cela, tout est dit. Si vous voulez entrer dans cette sagesse, il faut beaucoup d'humilité. De l'humilité envers la Sainte Vierge, c'est-à-dire de la confiance en elle, de l'humilité envers l'enseignement de Dieu, l'enseignement de l'Église, l'enseignement du catéchisme, l'enseignement de la morale. Vous avez en morale des choses qui peuvent vous surprendre, qui peuvent vous être pénibles, qui peuvent ne pas vous paraître sages. Et si vous faites confiance à l'Église, l'Église toujours, bien entendu, par les modernes, eh bien vous entrerez dans cette sagesse et vous découvrirez petit à petit que l'Église vous a fait entrer très profondément dans cette sagesse. Et puis, il faut une humilité, une confiance, une amitié avec les amis de Dieu. Du vivant de Mgr Lefebvre, cela nous arrivait assez souvent que Monseigneur prenne des décisions surprenantes. Et je m'étais rendu compte qu'il fallait, tant que nous ne comprenions pas, suspendre notre jugement, justement pour avoir le temps de pénétrer ce rayonnement, cette lumière que nous ne voyions pas du premier coup parce que nous étions un peu aveugles à cause de nos passions, à cause de nos mauvaises dispositions. Nous venions du monde, nous n'étions encore pas très savants, il y a beaucoup de choses que nous n'avions pas étudiées et pas comprises. Et 6 mois après, ça durait rarement plus de 6 mois, 6 mois après, nous disions « Ah, non seulement Monseigneur avait raison, mais il a été sage. Heureusement que je n'ai pas suivi mon sentiment et que je lui ai fait confiance. » Eh bien, là encore, le bon Dieu vous dit à qui vous pouvez faire confiance. Peut-être un jour, n'y aura-t-il plus personne à qui vous pourrez faire confiance. Vous aurez toujours le Saint-Esprit, toujours la Sainte Vierge. Que Dieu vous bénisse, mes bien chers frères, qu'il vous donne cette humilité de la vérité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.